Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 10h40 au Burundi où la mobilisation ne faiblit pas. Cela fait maintenant un mois que la contestation a commencé contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Depuis 4 semaines, les manifestations sont quasi quotidiennes. Au moins 30 personnes ont été tuées. Les radios indépendantes ne diffusent plus et de nombreux responsables de l'opposition et de la société civile sont passés dans la clandestinité. L'une des figures de ce mouvement a même été tuée samedi dernier. Zedi Feruzi a été abattu alors qu'elle rentrait à son domicile. Du coup, pour dénoncer cet assassinat politique, la coordination de la campagne contre le troisième mandat a décidé de suspendre sa participation aux discussions qui venaient tout juste de commencer avec le gouvernement. La situation est donc aujourd'hui totalement bloquée. Par ailleurs, plus de 110 000 Burundais ont déjà fui le pays pour se réfugier à l'étranger. Alors comment sortir de l'impasse? Que peut-on attendre du sommet annoncé ce matin? Sommet qui se tiendra dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie. Il devra réunir tous les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est. Quelle solution faut-il privilégier? Malgré les violences, l'opposition doit-elle dialoguer avec le gouvernement? C'est en tout cas ce que demandent l'ONU et l'Union Européenne. Nous en parlerons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. Placide nous dit, mais sur quoi va-t-on dialoguer dès lors que les règles du jeu démocratique sont faussées avec ce troisième mandat anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza? On va voir ce qu'en pense Sédou. Sédou qui nous appelle de la capitale du Burundi. Vous êtes à Bujumbura, Sédou. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci de nous appeler. Êtes-vous favorable au dialogue ou vous dites finalement que ce n'est pas une solution?
Moi, je suis favorable au dialogue, mais à condition. Parce que, actuellement, il faut que le désarmement de la milice Imbonerakure soit une condition inéluctable. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui a de physique, qui va vous mitrailler chaque fois que vous sortez, vous entrez chez vous.
Oui, précise, c'est d'où que les Imbonerakure, ce sont des jeunes du parti présidentiel accusés d'être une milice par les Nations Unies, et ils sont accusés d'aider les forces de sécurité à réprimer les manifestants. D'ailleurs, hier, notre envoyé spécial à Bujumbura, notamment dans le quartier de Kimana, a vu ce qu'on appelle ces patriotes frapper les manifestants devant la police qui était impassible. Ce qui fait dire à beaucoup que finalement il y a complicité entre les forces de l'ordre et ces miliciens Imbonerakure. C'est d'où? Ah bah alors dommage pour nous et dommage pour Sédou, on va essayer de rappeler. Oula, voilà, on a des problèmes avec les réseaux téléphones au Burundi. C'est vrai que vous êtes un certain nombre à nous contacter et nous, en revanche, nous avons des difficultés à vous rappeler, mais nous, surtout, ne vous inquiétez pas. Toute l'équipe se mobilise évidemment pour vous donner la parole, vous qui êtes sur place et qui pouvez témoigner de la situation. Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gomez.
Pour vous, le dialogue est un bon compromis?
Le dialogue est un bon compromis, le dialogue est permanent, mais au jour d'aujourd'hui, ce dialogue est difficile parce que, avec l'assassinat de l'opposant, les positions vont se radicaliser, tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Et d'ailleurs, ce matin, en disant qu'on ne va pas négocier la constitution, et ça, c'est déjà, ça prouve que c'est radicalisé. Mmh. Alors aujourd'hui, pour que le dialogue soit possible, parce que le dialogue, on peut le faire quand des adversaires, il faudra l'implication des médiateurs beaucoup plus puissants que celui qui est aujourd'hui, pour mettre tout le monde ensemble. Mais actuellement, nous ne pensons pas que Nkurunziza pourrait facilement céder. Parce que Nkurunziza, c'est un vent en guerre, un ancien rebelle qui n'a pas horreur du sang. Donc, c'est le rapport des forces qui importe pour lui. Et deuxièmement, malgré la pression de la communauté internationale, il peut se dire, mais si la France, les États-Unis m'ont lâché, je vais me tourner vers la Chine ou la Russie. Et enfin, ce qui est encore beaucoup plus difficile, c'est que Nkurunziza a des ressorts. N'oubliez pas que la RDC, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, c'est dans la même situation. C'est que pour le Congo-Brazzaville, la RDC, le Rwanda, Nkurunziza, tiens bon, nous sommes avec toi. Si toi tu réussis,
donc, Paul, vous pensez qu'en sous-main, certains chefs d'État de la sous-région finalement soutiennent Pierre Nkurunziza, puisque eux aussi se trouvent dans ce cas de figure, qu'aux prochaines élections, eh bien, ils ne pourront pas se présenter, c'est ce que prévoit la constitution d'un certain nombre de pays de la sous-région. On voit bien qu'on essaye également dans ces pays de modifier la constitution. Donc en sous-main, Pierre Nkurunziza bénéficierait du soutien de ses chefs d'État. Quelle est la marge de manœuvre de la communauté internationale? On a vu la Maison-Blanche taper sur la table, la Belgique aller plus loin que n'importe quel pays en disant « nous arrêterons notre aide directe en cas de troisième mandat », mais ça ne suffit pas. On voit bien que la pression ne fait pas peur aujourd'hui à Pierre Nkurunziza.
Oui, mais il s'en moque parce qu'il sait qu'il peut se tourner vers la Chine ou la Russie. Il s'en moque de tout ça. Tout ce qui préoccupe, c'est de demeurer au pouvoir. Il tient bon, il va résister contre vents et marées. Et d'ailleurs, si la Chine l'aidait, ça sera plus que la Belgique. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ne peuvent pas bouger sa position. C'est un vent en guerre. Tout ce qui peut le bouger, c'est le rapport de force. Aussi longtemps que le rapport de force lui sera favorable, il va demeurer contre vents et marées. C'est à la population. Si les manifestations peuvent se multiplier et faire basculer les choses, là, il pourra céder. C'est pas l'extérieur qui va faire
basculer. D'accord. Donc vous dites que, vu le contexte, le dialogue est donc un bon compromis. Pancras est burundais. Il nous appelle de Belgique. Il est à Charleroi. Bonjour Pancras.
Bonjour Juan.
Et contrairement à Paul, vous dites que le dialogue est inutile.
Au départ, Paul a dit que le dialogue était un bon compromis, mais toute sa démonstration, la démonstration qu'il vient de faire, il démontre que ce dialogue est futile, que ce dialogue est une perte de temps, parce que nous avons en face de nous un Pierre Nkurunziza qui est aveugle, qui est sourd, qui est muet, qui s'entête. Sa place n'est pas autour d'une table de négociation, sa table est dans un centre de rééducation, parce qu'il a perdu toutes les facultés dans bon sens. Il a perdu toutes les facultés d'un homme d'État, il a perdu toutes les facultés de bon sens, il a perdu toutes les facultés de compromis, parce qu'aujourd'hui, il ne se comporte pas comme un chef d'une nation, il se comporte comme un rebelle, il se comporte moins que les manifestants.
Pancras, mercredi dernier, Pierre Nkurunziza lui-même assurait que la paix et la sécurité régnaient sur 99,9% du territoire burundais.
Trois jours avant, il avait dit qu'il y avait une menace imminente de El-Shabaab. Constatez avec moi cette dichotomie, cette ambivalence. C'est pour vous dire qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Je crois qu'il a perdu la boussole.
Et en même temps, excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, Pancras. En même temps, ce mouvement n'est signalé que dans quelques quartiers de Bujumbura. On peut pas dire que la capitale tout entière est mobilisée derrière l'opposition et la société civile.
Excusez-moi, Juan, allez consulter les engins qui sont chargés des recettes. Le Burundi a perdu plus de 10 milliards, plus de 20 milliards dans ces 25 jours. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne seront probablement pas payés parce que précisément, la capitale, c'est le cœur du fonctionnement du Burundi. Et quand un cœur s'arrête, vous n'allez pas me dire que la tête va continuer à fonctionner.
Alors Pancras, je vous interromps parce qu'on a de nouveau rétabli la liaison avec Sédou qui nous appelait de Bujumbura. Sédou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis toujours là.
Alors, vous disiez juste avant que la ligne se coupe qu'il fallait des préalables au dialogue, et notamment désarmer les Imbonera Kure. Ça, c'est le préalable numéro un, dites-vous.
Oui, le numéro deux, il faut à ce que notre cher président de la République cesse cet langage de maltraiter ses compatriotes comme s'ils n'ont pas quelque chose à dire à propos des problèmes que nous avons au Burundi. Il faut aussi signaler que les Nations Unies doivent nécessairement stopper son plan d'organiser les élections, sans doute qui vont créer les larmes de sang dans son pays. En d'autres termes, je voulais dire que l'usage de la force est nécessaire, comme lui aussi est en train d'utiliser la force pour mitrailler son peuple, pour déstabiliser la substitution pour piétiner les accords d'Arusha.
D'accord, mais excusez-moi, vous dites l'usage de la force est nécessaire. C'est justement ce que craint l'ensemble de la communauté internationale. Tout le monde craint que le Burundi ne retombe dans la violence. Et quand on dit la violence, on pense évidemment à la guerre civile. Ce pays a été déchiré dans les années 90 par de nombreuses années de guerre. Il faut éviter ce scénario, c'est doux.
Oui, on va éviter ça, mais comment l'éviter alors que tout le monde est déjà, les jeunes de son parti sont déjà en possession de l'arme. Alors moi je ne vois pas une autre voie, à moins que la communauté internationale essaie de convaincre messieurs le président de la République de désarmer lui-même sa milice afin qu'on on revienne sur la table des négociations.
Ouais. Donc la priorité numéro un pour vous, avant d'entamer le dialogue, c'est le désarmement donc de ces miliciens. Merci Sédou de nous avoir appelé. Je remercie Pancras qui nous appelait également, lui de Charleroi. 33 9 693 693 70. Théodore, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez du Cameroun et pour vous, il n'y a pas d'autre solution que le dialogue.
Effectivement, Juan, je trouve qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Hein. Il n'y a que le dialogue qui peut résoudre les problèmes, hein, même les plus difficiles. Ah, et le problème aujourd'hui, avec ce que nous venons d'entendre ce matin, hein, le porte-parole du gouvernement qui dit que c'est non négociable, n'est-ce pas, le troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Oui, il a dit, pour être précis, je reprends ses propos, le gouvernement avertit que certaines questions qui touchent à la souveraineté, à la constitutionnalité et à la primauté du droit qui régit la République de Burundi ne peuvent être sujets à débat. Référence implicite, évidemment, au possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Le ton est donné avec ces propos du porte-parole du gouvernement ce matin.
Ben justement, Juan, ça veut dire que quand il faut tripoter, n'est-ce pas, la Constitution pour se maintenir au pouvoir, hein, c'est négociable. Mais quand maintenant il est question, n'est-ce pas, de négocier pour qu'il y ait la paix, et ça c'est non négociable, ça devient une ligne rouge. Je trouve ça absolument absurde, hein, de la part de ce gouvernement avec le Pierre Nkurunziza. Moi, je dis encore qu'il faudrait que la communauté internationale puisse mettre de son poids pour qu'il y ait un dialogue et mettre en place une transition pour permettre à Nkurunziza de quitter le pouvoir et s'il veut la paix de son pays et s'il veut vraiment la sécurité de son peuple.
Oui, donc ce que vous préconisez, c'est un report de l'élection présidentielle qui est toujours maintenue, je le rappelle, au 26 juin et mettre en place une période de transition avant donc l'organisation d'élections. Mais encore faut-il effectivement que Pierre Nkurunziza accepte ce plan de sortie de crise. Lui est convaincu que les accords d'Arusha et surtout la Constitution, l'article 96, ce fameux article qui lui permet de briguer un nouveau mandat. On va donner la parole à d'autres auditeurs en standard, mais d'abord un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Réaction d'Aimé qui nous dit « Le Burundi est en train de sombrer au vu et au su de tout le monde. Personne n'intervient pour sauver notre chère patrie et nous débarrasser de ce président. Où est la communauté internationale? Combien de morts faut-il pour intervenir ?» Encore une autre réaction sur la communauté internationale. Yao qui nous dit « Mais qu'attend-elle? Attend-elle qu'il y ait plus de sang pour pouvoir agir fermement ?» qu'elle jugule la crise avant que tout devienne incontrôlable, sinon on risque d'avoir une situation semblable à celle de la Centrafrique, nous dit cet auditeur. Trésor, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kigali, vous nous appelez du Rwanda, comme plus de 110 000 Burundais ces dernières semaines, vous-même vous avez fui votre pays.
Oui, suite aux menaces perpétrées par les jeunes Imbonerakure, jetés comme à l'accoutumée lors dans des manifestations aussi de Bujumbura. Quelqu'un de service national accompagné des Imbonerakure nous a photographiés. Après, trois de mes amis à qui on était en contact ont été kidnappés en fin route et ils ont été amenés au service national de renseignement. Oui. Ils ont été torturés, ils ont perdu connaissance. Alors, et moi, on a venu me chercher à la maison, malheureusement, j'étais pas là. Lui qu'on a rencontré à la maison, on l'a tabassé. J'ai pris le chemin de l'exil. L'exil que je voulais pas, alors que je voulais défendre la Constitution. Yeah. Alors, je me trouve dans un pays étranger, alors que je vais défendre la Constitution, même si je suis ici, on s'est organisé, on va faire des manifestations, on va pas lâcher jusqu'à ce que M. Pierre Nkurunziza laisse de violer la Constitution.
Parce que chez nous, Trésor, on vous sent évidemment mobilisé, vous avez participé aux manifestations, vous avez subi des menaces, vous avez donc été contraint à quitter votre pays. Quand on voit la situation aujourd'hui, quand on voit qu'il y a ces menaces, qu'il y a la répression, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné essayer de dialoguer avec l'adversaire?
Dialoguer avec qui? Ça fait 30 jours. Pourquoi ils n'ont pas initié les négociations dès le premier jour? Un jeune de 15 ans dès le premier jour qui s'appelle Kézamahol a été fusillé par un policier alors qu'il se mettait les mains à l'air. Plus de 30 personnes sont tuées depuis le premier jour des manifestations.
Ouais.
Des femmes sont éventrées ici à gauche, à droite. Des enfants n'ont plus à l'école. Pourquoi est-ce que les négociations n'ont pas attendu le jour où la société civile d'opposition a annoncé qu'ils vont faire? Pourquoi des négociations? Pourquoi je dis des négociations?
Ouais.
C'est pour bander les yeux.
Alors, Trésor, ne raccrochez pas. Eric est au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il a envie de vous parler, justement. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sur place et vous dites il faut continuer les manifestations. Quand je dis vous êtes sur place, vous êtes à Ouagadougou et vous dites il faut continuer les manifestations.
Exactement. Parce que ce qui se passe en Burundi, c'est ce que nous avons vécu exactement ici au Burkina. Et le peuple burkinabé est resté solidaire, debout face au régime de Compaoré, et nous avons réussi à le faire tomber. Donc nous demandons à nos frères burundais de rester solidaires, mobilisés, malgré les répressions qui s'abattent sur eux. Parce que s'ils ne le font pas, on va tous les éliminer. Donc avec la solidarité, la détermination, ils arriveront à bout de ce régime dictatorial.
Merci de cette réaction, Eric, et merci à Trésor qui nous appelait donc de Kigali. On va repasser au standard au 33 9 693 693 70 avec la réaction de Madeleine. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Alors vous nous avez envoyé une longue réaction sur la page Facebook de l'émission, vous nous avez ensuite envoyé votre numéro de téléphone. Vous aussi, comme Trésor à l'instant, vous êtes burundaise, vous avez fui votre pays il y a 2 semaines, c'est ce que vous avez écrit. Vous étiez vous-même, vous aviez peur en fait.
Oui, exactement, j'avais peur, le fait que j'ai pris la décision d'offrir mon pays alors que c'est mon pays natal. Qui devrait me protéger, vous comprendriez que j'ai eu peur.
Mais vous avez eu peur pourquoi, Madeleine? Vous avez vous-même participé à une manifestation ou à plusieurs manifestations?
Oui, j'ai participé à des manifestations contre le troisième mandat de Nkurunziza. Mais franchement, j'ai vu que je peux risquer ma vie et la vie de mes enfants. Et j'ai décidé d'offrir ce pays. Il faut alors que le président Nkurunziza renonce à son troisième mandat, qui est un mandat de la honte, un mandat qui ôte la vie à des citoyens burundais qui devraient être protégés par lui-même, par son gouvernement donc.
Comment vous réagissez aux nombreuses déclarations de la communauté internationale? Certains regrettent sur Facebook ces déclarations, puisque on a le sentiment, disent-ils, que les grandes puissances occidentales se contentent justement de déclarations. Vous attendez quoi concrètement de l'Union européenne, des Nations unies, des États-Unis?
L'Union européenne, les États-Unis et d'autres puissances comme l'ONU aussi, ils ont déjà a fait des déclarations comme quoi le pouvoir de Bujumbura et les anti-troisième mandat doivent négocier. Mais franchement, je vois que le Nkurunziza, c'est pas une personne à qui on peut négocier et qui peut céder son mandat. Je vois qu'il est décidé à tuer des citoyens paisibles qui manifestent pacifiquement. Je vois qu'il a un plan à exécuter, qu'il a un plan de tuer tous ces citoyens, tous ceux qui s'opposent à son troisième mandat. Donc, à la communauté internationale, il faut qu'elle intervienne. Il faut qu'elle ne laisse pas le Burundi sombrer comme le Rwanda de 1994, alors qu'elle avait le droit d'intervenir, de protéger les citoyens burundais, qui n'ont pas un président, qui n'ont pas un pouvoir qui doit les protéger.
Donc vous dites qu'il faut une intervention de la communauté internationale. Le gouvernement du Burundi qui s'est dit ce matin par la voix du porte-parole, profondément préoccupé par l'activité diplomatique qui tend, je cite, à saper, à dénigrer les institutions républicaines et constitutionnelles. Je vous rappelle que dimanche, un sommet se tiendra à Dar es Salaam en Tanzanie, avec tous les chefs d'État de la sous-région pour tenter de trouver une sortie de crise au Burundi, et on aura évidemment l'occasion de revenir sur cette actualité dans les prochains jours. Demain, nous parlerons du dossier Thomas Sankara. C'est aujourd'hui même que le corps de l'ex-président burkinabé assassiné en 1987 sera exhumé, sa dépouille sera ensuite expertisée. Les tests ADN permettraient et devront normalement nous dire si cette tombe est bien, celle de l'ancien président. En tout cas, la famille espère que l'expertise apportera des réponses concrètes sur les circonstances exactes de la mort de Thomas Sankara. On en parle demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert.